La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était le cinéaste préféré des Cahiers du cinéma. Jean Renoir est l'une des grandes inspirations de la nouvelle vague. Il a été admiré notamment par Romer ou par Truffaut qui sont sortis éblouis du visionnage de La Règle du jeu, sans doute son film le plus important de par sa liberté formelle et thématique. Renoir n'a jamais cherché à être autre chose qu'un artisan, mais il a bel et bien été un artiste, direct, sans chichi, traçant sa route. Et c'est peut-être cette attitude qui rend ses films particulièrement indémodables. Durant les 4 épisodes de cette série, nous allons donc voyager dans la vie et dans l'œuvre de cet homme mort en 1979 à l'âge de 85 ans. Après la biographie, nous ferons au cours de l'épisode 2 un trajet à travers ses œuvres majeures grâce à Charlotte Garçon des Cahiers du cinéma. Puis dans notre troisième temps, nous interrogerons Philippe De Vita à partir de son dictionnaire Renoir qu'il a fait paraître chez Honoré Champion. Nous nous interrogerons en particulier sur le désir d'écriture du cinéaste qui a également publié des livres. Et puis nous terminerons ce cycle en compagnie de la commissaire d'exposition Sylvie Patry pour parler des rapports entre Renoir père et Renoir fils, entre le cinéaste de La Bête humaine et le peintre du bal du Moulin de la Galette. Et aujourd'hui ?
Je suis né dans cet endroit qu'on appelle encore maintenant le château des Brouillards. Mes parents y sont restés jusqu'au moment où j'ai été âgé d'environ 2 ans. Et après le château des Brouillards, nous sommes descendus rue Caulaincourt, où nous habitions... je crois au 43, et mon père avait son atelier au 73, là où Stan Lane avait son atelier, nous étions voisins. Et puis plus tard, nous sommes descendus au coin de la rue Viollet-le-Duc, l'immeuble qui est près du cirque Medrano. En réalité, c'est assez curieux, on ne sait plus si les souvenirs sont véritables, sont directs, ou s'ils viennent des récits que des gens que l'on aime beaucoup vous ont faits. Alors je crois avoir des souvenirs du château des Brouillards, mais je ne suis pas tellement sûr qu'ils ne viennent pas des récits de Gabriel.
Gabriel a été le modèle préféré de votre père.
Gabriel était une cousine de ma mère. Ma mère est née en Bourgogne. Et quand je suis né, elle a demandé à Gabriel, qui avait 15 ans à ce moment-là, de venir l'aider pour s'occuper de moi. Seulement, mon père, enfin, il avait des modèles professionnels, mais en réalité, tout le monde posait chez mon père. Tout ce qui était peignable, ce qui était à portée de la main, était happé, emmené dans l'atelier, assis, et il fallait y passer, n'est-ce pas? Mon père peignait tout le monde, alors il a peint Gabriel aussi. Et comme elle avait un corps avec une peau, comme disait mon père, qui ne repousse pas la lumière, n'est-ce pas? Alors il ne l'a pas beaucoup.
Aujourd'hui, pour raconter la vie de Jean Renoir, nous sommes en votre compagnie, Pascal Mérigeau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous nous avez joints par téléphone. Je vous en remercie. Vous êtes l'auteur d'une biographie du cinéaste, publiée en 2012 chez Flammarion, et qui vous a valu le Goncourt de la biographie. Et dans ce livre, vous qualifiez Jean Renoir de caméléon. Mais c'est un terme un petit peu à double tranchant. Quel genre de caméléon était-il, selon vous ?
C'est un caméléon sur une couverture écossaise et qui a réussi à ne jamais exploser, ce qui est une des facettes de son génie. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui prenait toujours le parti de la personne avec laquelle il se trouvait.
C'est ce qui faisait son charme peut-être aussi, son charme et personnel.
Son génie de cinéaste, parce que le génie d'un cinéaste est aussi de prendre le parti de chacun de ses personnages. Et vous avez parlé, vous avez évoqué la règle du jeu en ouverture, bien sûr. Et vous voyez que dans la règle du jeu, il y a chaque personnage a un moment à lui, y compris le personnage du garde-chasse Cocu, qui est ridicule, etc. Et il y a un moment dans le film où on a envie de pleurer avec lui.
Faut dire,
Jean Renoir partageait tout ça.
Il y a aussi le braconnier hein, qui a son moment, un long moment d'ailleurs dans La Règle du jeu, mais il aimait beaucoup les braconniers. Il avait été même jusqu'à raconter qu'il avait été sauvé d'une mort certaine, probablement suite à un accident de voiture par des braconniers.
Oui, ce qui est sans doute faux d'ailleurs, mais comme beaucoup de choses qu'il a racontées, il aimait beaucoup les braconniers, mais ne supportait pas qu'on tue les animaux. Donc ça, c'est un paradoxe renoirien très plaisant.
Donc vous dites qu'il est capable d'affabulation.
Oui, bien sûr, mais c'est un conteur, Jean Renoir. Le premier texte que j'aime beaucoup, qu'il avait mis en ouverture de ses mémoires et qui a été changé ensuite au tout dernier moment, c'est « Je suis né avec la démangeaison de raconter des histoires. Lorsque je hurlais dans mon berceau, c'était pour attirer l'attention de spectateurs éventuels. » Et ça, c'est merveilleux.
Est-ce que ça veut dire qu'il a scénarisé sa vie aussi, un peu comme il aurait scénarisé ses films ?
Il l'a mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène, c'est par exemple de réunir deux événements qui n'ont rien à voir ensemble et de les conjuguer dans un même lieu, au même endroit. C'est ça la mise en scène. Et ça, il l'a fait toute sa vie.
Par exemple
Sur des tas de détails. Par exemple, quand il raconte que, ruiné par Nana, son film le plus muet, le plus ambitieux, il a dû vendre des toiles de son père pour payer la production. Et il raconte que, chez lui, les cadres vides, puisqu'il avait vendu les toiles, le considéraient d'un œil de reproche. Ce qui est bien sûr, il n'avait pas besoin de vendre les toiles qu'il avait chez lui, il en avait dans les caves de sa banque boulevard Haussmann. Mais c'est une scène merveilleuse, et ça il l'a fait tout le temps, il a scénarisé, comme vous disiez, et mis en scène sa propre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a pris tout ce qu'il disait au pied de la lettre, et comme il était toujours d'accord, comme je le disais, si vous lui disiez « Et bien sûr, vous préférez tourner en décor réel », il disait « Oui, bien sûr », même s'il n'a pratiquement pas tourné en décor réel, et que quand il a eu le choix entre le studio et le décor réel, il a choisi le studio, comme tous les cinéastes de sa génération, d'ailleurs.
Bon, alors ça, c'est un petit peu ce qu'on pourra appeler, Pascal Mérigeot, le roman de Renoir, ouais, qu'on va exactement raconter aujourd'hui avec vous. Renoir Jean est donc né à Paris, dans le quartier des Buttes-Chaumont, le 15 septembre 1800... des Buttes-Montmartre, pardon, de ouais, la Buttes-Montmartre, le 15 septembre 1894, et on peut noter qu'il naît presque en même temps que le cinéma lui-même, qui apparaît juste quelques mois après, je crois, avec le film de Louis Lumière, montrant la sortie justement des usines Lumière. C'est important, c'est une coïncidence, qu'est-ce que ça peut signifier ?
C'est une coïncidence, mais elle est agréable à noter. Mais c'est vrai qu'il fait partie de ces gens qui ont découvert le cinéma. Il l'a découvert dans une école catholique où il était élève. Les bons pères connaissaient l'art du pâté babi. Et comme il était assez mauvais élève, mais il aimait beaucoup les bandes que projetaient les bons pères.
Oui. Alors en le voyant naître, c'est à Rabelais, paraît-il, que son père a pensé, parce qu'il a trouvé que la bouche du petit Jean était grande comme celle de Gargantua.
Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a raconté. C'est très possible d'ailleurs. C'est un four, a-t-il dit.
C'est un four ?
Oui, un four, oui, sa bouche est un four. Oui. Voilà, tout petit entrée, et Jean Renoir adorait parler, donc il avait une bouche qui est très active.
Alors c'est le deuxième fils de Pierre-Auguste Renoir, artiste peintre, comme on le sait, et d'Aline Charigot, alors qu'évidemment on connaît moins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le milieu social de l'un comme de l'autre, Pascal Mérigeot ?
Ça dépend à quel moment vous les prenez, c'est toujours la même chose.
Au début, alors, quand eux-mêmes sont jeunes.
Pierre-Auguste est un homme d'origine très modeste, qui gagne sa vie en peignant des assiettes de porcelaine. Mais c'est vrai qu'au moment où Jean naît, Auguste Renoir est un peintre reconnu et connu et qui vend très bien ses toiles. Donc, origine familiale, paternelle et maternelle modeste, mais à l'arrivée de Jean Renoir au monde, c'est une famille bourgeoise. Et d'ailleurs, un des premiers tableaux où on représente Jean, c'est la famille Renoir, et ils ont tous les attributs de la bourgeoisie sur ce tableau.
Donc ce sont des bourgeois, mais c'est pas des bourgeois comme les autres, c'est des bourgeois, je veux pas dire bohèmes, disons artistes.
Oui.
Alors.
Oui, artiste. Comme disait un des médecins, tout le monde est toujours à poil chez eux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un genre a grandi dans ce milieu-là. Il faut savoir aussi qu'il a été élevé par une jeune femme que Aline Charigot avait fait venir de son village, qui s'appelait Gabrielle, et avec qui il a passé pratiquement toute sa vie. Oui. C'est-à-dire que cette femme a épousé un milliardaire américain, elle a eu un fils qui est toujours en vie d'ailleurs, et qui vit à Los Angeles. Et quand Jean Renoir a fait venir Aline et son mari et leur fils près de chez lui à Beverly Hills pour ne jamais être séparé d'elle.
La fidélité, donc, c'est une des caractéristiques de la personnalité de Jean Renoir ?
L'attachement à cette femme, oui, en tout cas, c'est sûr. Et Jean Renoir a toujours eu besoin d'avoir d'être entre deux femmes, si vous voulez. Et ça, il l'a fait toute sa vie. Et à la mort de Gabrielle, à la fin des années 50, il a reconstitué le trio entre son épouse Dido et sa secrétaire à Paris, Madame Doinel. Et il avait besoin de ça de façon très claire.
Alors, bourgeois, mais en même temps bourgeois artiste, il faut dire que la famille Renoir, en tous les cas quand naît Jean Renoir, on l'a entendu dans la première archive, c'était une interview de 1956, eh bien cette famille-là, elle vit au moment de sa naissance au Château des Brouillards. Mais qu'est-ce que c'est que ce Château des Brouillards, Pascal Mérigeau?
C'est une villa, c'est une maison qu'on a appelée comme ça, que je pense qu'on en trouve là. On trouve la trace chez divers auteurs, d'ailleurs. C'est une maison... Il y a des brouillards parce que c'est sur la butte aussi. Donc, quand la brume monte, la maison se trouve prise dans la brume, dans le brouillard. Donc, et c'est une très, 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 très jolie appellation. Oui,
c'est un vrai château ?
Non, non, c'est une belle maison, ce qu'on appelait une folie aussi autrefois. C'est-à-dire une maison avec très confortable. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on vit bien plutôt chez les Renoir, que ce soit donc à Montmartre, mais aussi en Bourgogne, parce que dans le village de Aline, la mère, Renoir a acheté une maison dans son village natal. Et un peu plus tard, il y en aura une autre de maison, une très belle maison aussi, la maison des Colettes à Cagnes-sur-Mer, oui. Où Auguste d'ailleurs s'installe définitivement en 1907. Donc il y a beaucoup de maisons qui comptent aussi dans la vie de Jean Renoir.
Oui, pour vous dire sur la fortune ou sur la classe sociale, c'est que la maison des Soies a été achetée grâce à la vente d'un seul tableau. Donc, vous voyez, c'était assez... Oui, les maisons et le lieu de vie, c'est très, très important pour Renoir. Il va reconstituer ça à Los Angeles. Dans ses différentes maisons, ses maisons successives. Aussi avec les oliviers, il fait planter les oliviers, il a un jardin, tout ça est très très important pour lui.
Los Angeles, il y a donc aussi Gabrielle dont vous avez parlé. C'est avec elle qu'il va la première fois au cinéma ?
Non, je crois que c'était avec les bons pères, c'était au collège, mais ensuite il va avec elle. Et ensuite il y va avec son frère, Pierre, qui est une personnalité très importante dans la vie de Jean Renoir, qui est un grand acteur, qui lui a eu la vocation d'acteur très tôt, il a toujours voulu être acteur, il est devenu acteur, un très grand acteur, et ils vont découvrir Chaplin ensemble. Après que Jean et Pierre, d'ailleurs Pierre a été blessé à la guerre tout au début, en août ou septembre 1914, et Jean en avril de l'année suivante. Donc ils ont été blessés très tôt, et tous deux souffriront de leurs blessures jusqu'à la fin de leur jour.
On va revenir aussi là-dessus. En tous les cas, lors d'une séance de cinéma avec Gabrielle, le petit Jean avait été terrifié par le bruit et le rayon du projecteur, mais il allait bientôt s'y habituer.
Le collège a eu une très petite influence sur moi quand j'étais petit. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'en évadais constamment. N'est-ce pas? Je m'en allais, j'arrivais chez moi, je disais qu'il y avait des vacances, mon père me disait, ça n'est pas vrai, t'as simplement pas envie de travailler, ben reste là. Et ça se passait comme ça. Mon compagnon d'enfance, il était un peu plus âgé que moi, mais enfin, celui qui m'a le plus influencé, c'est probablement Pierre Lestringuès. Son père, Lestringuès, était un ami intime de mon père, nous nous voyions tout le temps. Je n'aimais rien. Véritablement, le fait d'être enfermé dans une classe, d'être obligé de rester assis quand on a envie de se lever, d'être obligé de jouer dans une cour quand on n'a pas envie de jouer, ça me semblait tout à fait lamentable. C'est tout de même le lycée qui m'a donné, en ce qui concerne pas le théâtre, mais la littérature pure, c'est tout de même au collège que j'ai eu mes premières révélations. Je le dois probablement au professeur de 5e du collège Sainte-Croix où j'étais, qui s'appelait l'abbé Vic, et qui était un homme extrêmement intelligent, et qui m'a appris à lire Jules César. Il m'a donné un truc qui est absolument merveilleux, c'est de considérer que le latin n'est pas une langue étrangère. Et de lire le latin sans se dire c'est difficile, moi en se disant c'est très facile, si on ne comprend pas, bon, on recommence à lire la page, au bout de quelques, c'est une expérience très intéressante, au bout de quelques lectures on comprend et on lit et on finit par lire le latin d'une façon absolument courante, et cet abbé Vic m'a donné le goût des lectures en latin. Il a commencé par Jules César parce que c'est extrêmement facile, mais enfin ça s'est terminé par des auteurs plus difficiles, Virgile par exemple me passionnait. Et à cette époque-là j'ai commencé à écrire des vers et avoir des préoccupations littéraires, mais toujours avec cette espèce de timidité devant. Et j'ai encore ça maintenant. Quand je travaille, on devrait savoir qu'on peut effacer. Il me semble qu'on ne peut pas effacer. Et à ce moment-là, il me semblait que tout mot posé sur une feuille de papier prenait une importance et un poids considérable. Alors je n'osais pas le poser. Et ça m'arrive encore maintenant.
Noir dans une archive de 1955. Alors quand il parle de son rapport aux études, il fait aussi un autoportrait, Pascal Mérigeot, autoportrait en adolescent à la fois timide et puis en même temps un peu buté face à l'école, face à l'institution scolaire.
Oui, détester ça, il faut rappeler aussi, puisqu'on parle de ses choix de vie, que le Auguste Renoir lui avait donné deux professeurs quand il était soit, enfin deux précepteurs, disons. L'un était le curé du village et l'autre l'instituteur communiste du village. Donc, vous voyez, il avait les deux sons de cloche, si je puis dire, et il a partagé ça toute sa vie. Cette double ou triple ou quadruple influence.
Ou tolérance, pourrait-on dire.
Oui, ou tolérance, si vous voulez. Oui, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Donc, il est allé beaucoup en pension.
C'était une des grandes surprises quand son fils Alain, que j'ai bien connu, qui était né en 1921, m'a dit « Je ne comprenais pas comment mon père, dans les années 30, pouvait déjeuner avec Maurice Thorez et dîner avec ses amis Croix de Feu.
Ouais. »
Et j'étais sidéré de penser que Jean Renoir a des amis Croix de Feu.
Et comment vous l'expliquez alors ?
Ben parce qu'il aimait ces gens-là. Enfin, il aimait les personnes. Il aimait plus les personnes que les idées. Et donc, je pense que chez Thorez, c'était plus la personne Thorez qu'il fascinait, l'orateur, qui avait un public, qui soulevait des foules, et qui excitait cette veine qu'avait Jean Renoir de monter sur les planches, dont Octave parle dans La règle du jeu. Moi aussi, j'aurais aimé connaître ça, les bravos, les hurrahs, etc. Et ça, Thorez satisfait ce désir-là. Et l'autre côté, eh ben, il a des amitiés avec des gens d'extrême droite.
Mmh.
Lui-même est quelqu'un, n'est pas quelqu'un de gauche hein, au départ, c'est quelqu'un... Il s'engage dans l'armée en 1913, il aime la cavalerie, il aime l'armée, il aime... On appelait ça une culotte de peau autrefois.
Oui, voilà. C'est en 1913, il a donc 20 ans, il s'engage dans les dragons et fréquente l'école de cavalerie de Saumur. Mais c'est un petit peu étonnant ça, Pascal Mérigeot, parce qu'on vient d'entendre à quel point finalement il n'aime pas l'école, parce qu'il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire et à quelle heure le faire. Et pourtant, c'est dans l'armée qu'il décide de s'engager. C'est pas un peu paradoxal quand même ?
C'est le paradoxe Renoir. Renoir est fait de paradoxes. Et il s'engage dans l'armée parce qu'il n'a pas d'idée, il ne sait pas quoi faire de lui-même.
Mmh.
Tout simplement, il n'a pas de vocation, au contraire de son frère Pierre, son frère aîné. Il n'a pas de vocation. C'est un jeune homme de bonne famille qui a de l'argent, mais qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et comme il aime bien la campagne, Auguste disait « J'espère qu'on pourra en faire un garde-chasse. » Voilà.
Ou un forgeron.
Ou un forgeron peut-être. Mais donc il s'engage dans l'armée parce que bon, les fils de bonne famille font ça aussi. Hein. Et il est recommandé à son chef, au général, par une lettre grâce à une lettre d'Auguste. Donc c'est pas n'importe qui. Et quand on voit la grande illusion, par exemple, le réflexe, c'est de penser que le personnage qui représente Jean Renoir, de cette façon, est le personnage de Jean Gabin. C'est une erreur. Le personnage qui est Gabin, qui est Jean Renoir, c'est Pierre Freinet, c'est l'aristocrate, parce que comme tout bourgeois, Jean Renoir est fasciné par les aristocrates.
Mais en même temps, on a l'impression qu'il méprise les bourgeois, qu'il méprise les ouvriers, en même temps qu'il aime les bourgeois et qu'il aime les ouvriers.
Oui, bah évidemment, bah c'est Renoir. C'est Renoir. Il aime les ouvriers, il les aime d'un peu loin, quoi. Je veux dire, il a écrit, il a une très belle phrase sur ce qui ne revient pas là à l'instant, il y a une très belle phrase où il parle de son rapport aux ouvriers, où il dit, comme tous les bourgeois, j'aime les ouvriers quand ils sont un peu loin, quoi.
Alors à ce moment-là aussi de sa vie, il y a pas mal de photos de lui adolescent ou jeune homme où on le voit l'air quand même un petit peu ennuyé, un peu mélancolique. Il faut dire qu'il y a des secrets de famille. Il y a le fait qu'il y a des enfants illégitimes, par exemple, dans la famille Renoir.
Mais oui, et d'ailleurs avant qu'ils ne sont pas de la mère de Jean, qui ne sont pas d'Aline Charigot, Auguste a eu deux enfants, et l'un s'est appelé Pierre et l'autre Jeanne, ce qui prouve qu'il n'avait pas beaucoup d'imagination pour les prénoms. Et Pierre, on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu, mais Jeanne est restée assez longtemps et Auguste était en contact avec elle, il lui donnait de l'argent, il a accepté qu'elle épouse le jeune homme qu'elle lui a demandé d'épouser. Et quand Madame Renoir a découvert ça, parce que ça se faisait avec la complicité de toutes les bonnes, bien sûr, de la maison, les bonnes dont on pourrait parler aussi, qui étaient aussi des modèles. Elles épluchaient les pommes de terre et elles posaient en même temps. Et donc, avec la complicité des bonnes, Madame Renoir l'a très mal pris. La famille Renoir est une famille très... c'est un nœud de vipère, un nœud de couleuvre, on va dire. Mais vous savez que Jean Renoir, par exemple, a fait croire à ses petits-enfants que sa femme, avec qui il vivait aux États-Unis, Dido, était leur grand-mère, alors que ce n'était pas du tout vrai.
Est-ce que ça a pu peser sur le moral, par exemple, de Renoir, dont on sent toujours à cette même période, il faut dire qu'en 14, Gabriel les a quittés, Gabriel, que quand même, il aime beaucoup.
Pour cette raison, c'est pour ça qu'elle est partie. Elle est partie du fait de la révélation de sa complicité dans la relation avec la fille cachée.
D'accord. Donc il se sent peut-être un petit peu seul et ça peut peut-être jouer aussi dans le fait que voilà, il part à la guerre. Il y a une autre raison, c'est que...
Vous avez absolument raison. Il est désemparé à ce moment-là. Oui. Voilà.
Et puis le fait qu'il est très patriote aussi.
Mais bien sûr qu'il est très patriote. Mais que c'est très partagé à cette époque. Hein. Je veux dire, il est très patriote. Il est très, même s'il aime beaucoup l'Allemagne d'ailleurs, parce que il parle allemand, c'est la seule langue qu'il parle couramment, autre que le français. Et mais il est très très patriote, bien sûr. Mais vous savez, il n'est pas du tout. On a dessiné de lui une image de, comment dirais-je, de pacifiste qu'il n'est absolument pas. Je veux dire. Vous savez, quand il enjoint à son fils unique de s'engager dans l'armée américaine en décembre 1940...
Il dit que c'est pour être poli avec les Américains qui l'ont bien accueilli.
Alain va faire toute la guerre du Pacifique. Donc c'est la politesse coûte un peu cher, Alain. C'est vrai que Jean, à ce moment-là, ne sait pas que la guerre du Pacifique va être un enfer. Ça, c'est certain.
Je suis arrivé à Paris. On m'avait prévenu qu'il y avait un hôpital à l'hôtel Ritz. Je me suis dit, ça doit être très bien, l'hôtel Ritz. Je suis arrivé à l'hôtel Ritz. On m'a donné un lit et j'ai pu téléphoner à mon père que j'étais là. Mon père était déjà assez malade, il marchait difficilement. Enfin, au bout de quelques jours, on m'a donné l'autorisation de sortir et j'ai pu aller le voir et vivre même en grande partie avec lui dans notre appartement de l'époque, qui était l'appartement du boulevard de Rochechouart, au coin du Cirque Medrano. Mon père était évidemment bien frappé par la disparition de ma mère. C'était un moment extrêmement triste. Nous passions des journées à nous regarder sans parler. L'appartement nous semblait plus que vide. Enfin, nous ne savions que faire, nous ne savions que dire. Et c'est à ce moment-là que mon père a commencé à me raconter des histoires de sa jeunesse. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire qu'un jour ou l'autre, je pourrais peut-être les rassembler et écrire un livre sur ses souvenirs de jeunesse. Mon père, d'ailleurs, pendant la guerre, d'une façon ou d'une autre, restait en rapport avec moi constamment.
J'ai eu des lettres. Malheureusement, pendant la guerre, elles ont disparu. Mais j'ai eu beaucoup de lettres qu'ils m'envoyaient pendant la guerre. Et c'était des lettres adorables.
Ça devait m'arriver. C'est dans tous les poèmes.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Extrait d'un entretien avec Jean Serge en 1959. Alors, Renoir raconte ça comme si finalement c'était presque une partie de plaisir, rentrer et se faire soigner au Ritz. En effet, ça n'est pas exactement le cas. L'année 1915 a été vraiment une annus horribilis, Pascal Mérigeot, pour lui, parce que le 27 avril, il est blessé, presque amputé. Et puis 2 mois plus tard, c'est donc la mort de sa mère, qui était diabétique, qui souffrait d'obésité. C'est quand même un moment très très dur et qui est peut-être un peu minimisé ensuite quand on entend parler Jean Renoir.
Mais sa mère qui lui a sauvé la vie, parce que c'est elle, quand elle, apprenant que Jean était blessé dans les Vosges, s'est précipitée et avec toute sa bonne foi et sa volonté et son entêtement de paysanne, a demandé à ce qu'on ne l'ampute pas, alors qu'on était sur le point de l'amputer. Et c'est à elle qu'il doit d'avoir sauvé sa jambe, et elle est revenue, elle est morte presque très peu de temps après. Et ce que ne raconte pas Jean, dans cet archive qui est très très beau, il faut penser que ces deux hommes sont dans un appartement vide, parce que toutes les femmes sont parties, et elles sont aux Colettes, et pratiquement toutes, il n'y a plus que 2 bonnes, je crois, et que ces deux hommes sont 2 infirmes.
Oui, parce que le père est dans une chaise roulante.
Et dans une chaise roulante, et Jean est blessé gravement à la jambe et ne peut pas se déplacer sans béquille. Donc ces deux hommes, le père et le fils, sont 2 infirmes. Et ça, c'est très touchant. Et ce qui va être très très touchant, c'est qu'à la fin de sa vie, Jean va se retrouver dans la même situation que son père, infirme lui aussi, condamné au fauteuil roulant.
Alors il faut dire aussi que c'est pendant ces mois de convalescence que Jean Renoir va de plus en plus aller au cinéma. Il va voir les films de Louis Feuillade, les films de Charlot. Entre Méliès et Lumière, écrivez-vous Pascal Mérigeot, il va choisir très vite. Mais que choisit-il? Quel est le cinéaste qu'il préfère?
Ah bah c'est très évidemment Méliès, c'est la fantaisie. Éric Rohmer m'avait raconté qu'il avait organisé pour lui, à la fin des années 50 probablement, des projections des films Lumière et qu'il n'avait pas éveillé beaucoup d'intérêt de la part de Renoir. C'est vrai que c'est la fantaisie de Méliès qui le fascine beaucoup plus que le, disons, comment dirais-je, côté on dirait documentaire aujourd'hui des frères Lumière, ça c'est certain.
Alors une fois remis sur pied, il retourne se battre, mais cette fois comme aviateur, puisqu'il a passé son brevet de pilote à Ambérieu, ouais. Puis à Châteauroux. Et là, on peut dire que la guerre de Jean Renoir est une guerre exemplaire.
Ah oui, absolument, c'est une guerre exemplaire, mais qu'il a faite loin des tranchées du fait de sa première blessure, quoi. Il faut savoir aussi que la plupart des aviateurs pendant la Première Guerre mondiale venaient de la cavalerie. Ce sont les cavaliers, comme Renoir, qui ont été versés dans l'aviation, parce qu'on n'avait plus besoin des chevaux avec la guerre d'opposition, bien sûr, et puis la cavalerie était un peu dépassée. Donc il a fait surtout de la reconnaissance, plus que du pilotage. Et là, pour le coup, c'est un peu le personnage de Gabin dans La Grande Illusion. Le personnage de qui pilote à destination des officiers pour en repérage, d'une certaine façon.
Alors, il a déjà pas mal avancé en âge, mais il ne sait pas toujours très bien ce qu'il a envie de faire, et il imagine peut-être faire de la céramique. C'est en tout cas ce que son père aimerait qu'il fasse.
Oui, donc il s'y met un petit peu, paraît-il, avec beaucoup de maladresse. Et un manque de, comment dirais-je, d'obstination, quoi. Il se décourage très vite. Mais il rencontre une jeune femme qui est le dernier modèle d'Auguste Renoir, qu'il va épouser très peu de temps après la mort d'Auguste et qui va avoir une importance absolument considérable dans sa vie. Sans elle, on peut dire que Jean Renoir ne serait peut-être jamais devenu cinéaste.
Et c'est Dédé, on va en parler juste après cette nouvelle archive.
L'exemple de mon père et le fait que tous les jours nous le voyions peindre faisait que pour rien au monde, nous n'aurions voulu faire de la peinture. cette crainte allait même jusqu'à nous éloigner de toute profession artistique, de toute profession dans laquelle on peut avoir la prétention de s'exprimer soi-même. Nous étions les témoins journaliers de cette espèce de miracle qu'était mon père devant un chevalet, et nous savions bien que nous ne pourrions jamais espérer atteindre à cette maîtrise, et nous préférions nous confiner à des exercices plus modestes. Quand nous avons fait de la céramique, sur les conseils de mon père, nous avions cru que nous entrions dans un métier, dans une carrière purement artisanale. Alors, on a un motif, n'est-ce pas, qui est représenté sur un vase que l'on a peint, on le met au four et il en sort tout à fait autre chose. Ce qui en sort d'ailleurs est souvent beaucoup mieux. Il me semblait que le cinéma c'était comme ça. Il me semblait qu'on avait une scène devant une caméra, qu'on la mettait en scène, qu'on la photographiait, qu'on l'envoyait au laboratoire et que ce qui en revenait était quelque chose d'absolument inattendu. Alors cette ressemblance me passionnait parce que je crois énormément au hasard. Je crois qu'à partir du moment où dans un métier on est sûr de ce qu'on fait, on est perdu. Et il me semblait que la part du hasard dans le cinéma, surtout au début, pensez donc, j'ai commencé le cinématographe tout de même en 1922, et alors là, il est évident que la somme des hasards était très grande, et c'est ce qui rendait le cinéma à cette époque absolument passionnant.
Qui est donc Dédé Hushling, avec qui Jean Renoir va faire quelque temps de la céramique?
C'est une femme d'origine très modeste et qui découvre auprès d'Auguste Renoir, qui découvre de grands messieurs qui tous lui disent qu'elle est merveilleuse parce qu'elle est sublimement belle, et qui donc découvre un monde dont elle ignore tout, un monde où il y a beaucoup d'argent. Elle découvre aussi le cinéma et son rêve va très vite de devenir une vedette de cinéma, non pas une actrice, mais vraiment une vedette. Et elle a les yeux tournés vers Hollywood, bien évidemment, vers Gloria Swanson, vers toutes les plus grandes vedettes qui sont américaines à ce moment-là. Et donc, Jean va venir au cinéma, d'abord non pas comme réalisateur, mais comme producteur, parce qu'il a de l'argent, et que à cette époque-là, du temps du muet, les productions sont souvent bricolées, c'est-à-dire que des gens payent, quelqu'un qui a de l'argent peut se payer un film. Et très vite, Jean va, dès son premier film, va mettre la main à la pâte, ne résistant pas à travailler, à réaliser lui aussi, à diriger sa propre épouse. Et donc, Jean va devenir cinéaste à ce moment-là. Et c'est quelque chose d'un peu triste parce que l'importance d'André, qui est devenue Catherine, ensuite qui a pris le pseudo de Catherine Hesling, a été très très minimisée par la famille Renoir. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur les brouillons de Jean Renoir quand il écrivait ses mémoires. Et que, au début, il lui accorde beaucoup d'importance, et que ces deux dames, c'est-à-dire Dido, son épouse, et sa secrétaire, Ginette Douanel, qui se détestaient cordialement, mais tombaient d'accord pour dire qu'on donnait trop d'importance à Catherine. Donc il a réduit beaucoup, beaucoup tout ce qu'il décrivait sur Catherine, et c'est un peu dommage. De même que Alain Renoir m'a dit qu'il n'a pas compris sa mère, il regrettait à la fin de sa vie de ne pas avoir compris sa mère, et il venait à Paris, il allait la voir en cachette de ses propres enfants qui venaient avec lui, c'est un petit peu triste.
Ils se sont mariés donc le 24 juin 1920 à la mairie de Cagnes-sur-Mer. C'était juste un an après la disparition de Auguste Renoir.
C'était peut-être même un peu plus tôt, non?
C'est vous le spécialiste, donc c'est vous qui nous dites.
Non, mais j'ai pas du tout la mémoire des dates. Mais
je crois que... vraiment que c'est les dates que j'ai données, mais enfin bon, peut-être que c'était
peut-être.
Un petit peu plus tôt. Écoutez, sur cette question de Dédé et de son importance dans le cinéma de Renoir, il faut quand même poser cette question. Est-ce que Renoir aurait fait du cinéma si sa femme, sa première femme, parce qu'on va voir qu'il y en a eu d'autres, si sa première femme ne lui avait pas demandé?
Ça, on ne le saura probablement jamais, mais c'est l'impression qu'on a.
Alors, parlez bien, si possible, dans votre téléphone.
Pardon, on a l'impression que c'est par amour pour André, Catherine, et pour lui donner rendre possible le rêve qu'elle a de devenir une vedette, qu'il va venir au cinéma, d'abord en produisant un film dont qui va prendre en charge très très vite, mécontent du réalisateur, Et puis ensuite, en tournant lui-même, en écrivant et en filmant lui-même.
Donc c'est l'époque de Catherine ou Une vie sans joie, voilà. Qui est en vérité un faux départ, écrivez-vous Pascal Mérigeau. Oui. Il y a aussi un autre film, La fille de l'eau. Là encore, c'est sa femme qui est la vedette. Et puis à un moment donné, que se passe-t-il? Il décide qu'il fait du cinéma pour lui-même et pas seulement pour sa femme. Et donc il décide, au moment de La chienne, de ne pas lui confier le rôle principal. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça?
On peut dire les choses comme ça, avec cette autre donnée qui est qu'avec l'arrivée du parlant, c'en est terminé du temps de bricolage au cinéma. C'est-à-dire qu'on ne peut plus produire les films soi-même. Ça devient vraiment une industrie à ce moment-là. Et Jean Renoir est quelqu'un qui... Il a des amis dans la production. Pierre Brandberger est un ami, par exemple. Mais Pierre Brandberger ne lui commande pas de films. Parce que la réputation de Jean Renoir dans le cinéma français n'est pas très bonne. Il est considéré comme peu fiable. En plus, il n'hésite pas à se moquer un peu de tout le monde. Il déteste le cinéma français, il préfère le cinéma américain. Donc, on ne fait pas très confiance. Et c'est pour ça qu'il va mettre un certain temps avant de réaliser son premier film parlant, qui est une adaptation de Feydeau, On purge bébé. Et ensuite, il y a en effet La chienne, que Catherine aurait voulu faire. Il ne lui a pas donné le rôle. Est-ce qu'il aurait pu lui donner? On ne le sait pas. Enfin, c'est très compliqué. La jeunesse de La chienne est très compliquée. Comme tout film réussi, les films réussis ont beaucoup de pères, vous savez.
Mais est-ce que c'est ça qui cause la rupture entre eux?
Non, non. Le couple était déjà très distendu depuis déjà plusieurs années. Et je me souviens qu'Alain me disait, qu'il était né en 1921, me disait qu'un jour, dans le grenier des soins, il avait trouvé, je crois, un recueil de poèmes de Ronsard, je crois, annoté à deux mains par son père et par sa mère, et que ça l'avait sidéré parce qu'il avait découvert à ce moment-là que son père et sa mère s'étaient aimés. Et pour lui, il n'y avait que des conflits, des disputes, etc. Donc, c'en était terminé de l'histoire d'amour de Jean et de André et Catherine à ce moment-là.
Je crois que toute œuvre d'art, on jouit pendant qu'on le fait.
Oui. Oui, dans la gestation, c'est dans la mort que ça se fait.
Naturellement.
Dans la mort, c'est un monsieur qui vous contrôle, c'est fini.
C'est fini.
On n'était pas grand. On se contrôlait nous-mêmes.
Oui, on se contrôlait nous-mêmes et puis on s'aimait beaucoup.
Voilà.
Et le tournage, vous l'avez fait dans la gaieté, vous entendiez bien?
Oh oui.
Dans la passion.
Dans la passion.
Cette trouvaille de gens qui était merveilleuse, qui fait le plus gros, c'est le plus gros effet du film.
Ah bon? Lequel?
Elle est de vous.
Je sais pas.
Le texte est de Jean Renoir.
Ah bon?
Pas de Fauchoix.
Ah.
C'est peut-être ce qui a mis en colère notre ami Fauchoix. C'est du jeune homme qui s'arrête dans une voiture sport et qui me donne. Et y en a un qui vient de me donner 5 francs. Il s'arrête, il regarde ce clochard qui se dirige vers lui et qui lui donne 5 francs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes 5 francs? Pour t'acheter du pain. C'est le plus gros effet du film, et ça commence comme ça, et c'est Jean Renoir.
C'est pas de Fauchois. C'est pas de Fauchois, mais c'est très dans l'esprit de Fauchois. Oui.
Et Michel Simon, se souvenant du tournage de Boudu, Sauvé des eaux, un des films qui marque l'entrée finalement dans les années 30 pour Renoir. C'est un film qui date de 1932. C'est un grand succès, à la fois commercial et critique, hein, Pascal Mérigeau.
Non, on ne peut pas dire ça. Le cinéma de Renoir est très incompris à ce moment-là.
Oui, dans les cahiers du cinéma, on le dit, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord.
Dans les cahiers du cinéma, mais pas à l'époque.
Enfin, si on le dit aujourd'hui dans les cahiers du cinéma, peut-être qu'on a une certaine distance historique.
Ça n'est pas un succès critique ni commercial. C'est un film assez incompris quand vous lisez les critiques de l'époque. On est très surpris de voir que les gens sont passés très à côté du film que nous, aujourd'hui, on trouve absolument magnifique. Les gens sont passés à côté et le film n'a pas eu une très, très bonne exploitation. Il est resté peu de temps à l'affiche. Et ça n'a pas été... Le seul grand succès commercial de Jean Renoir, c'est La Grande Illusion.
Mmh.
C'est certain. Avant, il a eu beaucoup de mal à avoir des succès, pour différentes raisons, mais vous savez, l'histoire du cinéma montre que ce ne sont pas les meilleurs films qui font les plus gros succès. Hein.
Oui, par exemple, La Règle du Jeu, que beaucoup considèrent comme son meilleur film, n'aura pas beaucoup de succès sur le moment. D'abord, il a été interdit pendant un moment.
Non, il n'a pas été interdit vraiment. Il a fait partie d'une charrette avec quelques films dont
enfin, on l'a pas pu le voir en tous les cas.
Dans l'exploitation a été empêchée, mais c'est la guerre qui a empêché l'exploitation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à l'époque, les films sortaient d'abord à Paris, puis en province, quelques semaines plus tard. Et là, la guerre a empêché que le film sorte en province.
Voilà. Enfin, la guerre, c'est quand même la censure militaire qui a jugé que ce film était démoralisant. Pourquoi était-il jugé démoralisant, ce film ?
Il faudrait demander à la censure militaire. Mais c'est vrai que, on disait un petit peu, quand vous voyez la règle du jeu, c'est vrai qu'il vous montre une classe sociale totalement inconsciente qui danse sur un volcan, d'une certaine façon. Totalement inconsciente de ce qui se prépare, de ce qui est déjà pratiquement arrivé. Et que donc, on va attribuer aussi la défaite à ce pessimisme-là. Et puis, Jean Renoir est détesté aussi parce que c'est du point de vue des gens de droite, c'est un renégat. C'est quelqu'un qui a trahi sa classe sociale. Et donc, on le déteste encore plus.
Pourquoi a-t-il trahi sa classe sociale ?
Pardon ?
Pourquoi pense-t-on qu'il aurait trahi sa classe sociale ?
Parce que c'est un bourgeois.
Oui, c'est un bourgeois qui a donc fait des films, c'est ça que je vous demandais peut-être de préciser, oui. Qui ont été commandés pour certains par le Parti communiste ou par la CGT, comme la Marseillaise par exemple. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça?
Au milieu des années 30, il est cinéaste officiel du Parti communiste d'une certaine façon. Il participe aux manifestations, il est extrêmement proche du Parti communiste, notamment de Thorez. Donc ça en fait un renégat. Et le seul film qui va faire l'unanimité de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est La Grande Illusion, à une exception, c'est celle de Céline.
Est-ce que La Bête humaine, ça n'est pas aussi un film qui plaît quand même beaucoup, justement dans ce style du cinéma social ?
Si, c'est un succès, La Bête humaine, mais c'est après La Grande Illusion. C'est un grand, grand succès. C'est un cinéma, là, c'est l'éclat de la production française de l'époque. C'est très, très... C'est un grand succès, c'est un film qui va compter. Aux États-Unis, les gens connaissent La Grande Illusion, enfin connaissaient La Grande Illusion et La Bête humaine, principalement quand Jean est arrivé là-bas. C'était les deux films de lui qui étaient cités toujours par ses amis.
Donc en partie un incompris, on le comprend bien dans ce que vous dites, Pascal Mérigeot. Est-ce qu'il n'a pas lui-même un peu aggravé son cas quand même quand il accepte l'invitation du gouvernement italien à Rome pour adapter la Tosca avec son collaborateur Karl Koch? En tout cas, les communistes ne vont pas tellement lui pardonner ça puisqu'on est juste au mauvais moment en 1939.
Ah, les communistes, ils ont beaucoup de mal à ce moment-là. Vous savez, le pacte germano-soviétique va leur poser quelques petits problèmes aussi. Et c'est vrai que Jean accepte c'est un contrat. Il attribuera son départ en Italie, pour l'Italie, à l'échec de la règle du jeu, alors qu'en fait, le contrat était signé avant. Simplement, à partir de La Grande Illusion, si vous voulez, Jean Renoir estime qu'il n'a plus rien à prouver en France. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là, il commence à penser déjà à Hollywood. Il noue des premiers contacts avec Hollywood. Et il veut partir. En plus, il est depuis le tournage du jeu avec une jeune femme nouvelle, qui est Didot Frère. Avant, sa compagne était Marguerite Houlet, qui prendra le nom de Renoir, qui était sa monteuse et qui était une militante communiste. Là, il est avec Didot Frère, qui est fille de diplomate, qui ne fait pas partie de la profession du cinéma français, et qui n'a qu'une envie, c'est que Jean et elle s'en aillent, quittent la France. Et donc, lui, il considère que il n'a plus rien à prouver en France, donc il fait une tentative en Italie parce qu'il a envie d'aller vivre quelque temps à Rome, et tout simplement, et sans trop se soucier de ce que ça signifie sur un plan politique, c'est sûr. Et donc il va, en effet, il va se faire détester déjà par la droite, ça, il l'était déjà, maintenant détesté par la gauche, mais là où Jean Renoir est un personnage extraordinaire, c'est quand il est à Rome, il est invité, hébergé, payé, etc. par le régime fasciste, et le soir, il voit tous les cinéastes, futurs grands cinéastes italiens comme Encini, La Tuada, Monicelli et autres, qui sont tous antifascistes et qui adorent Jean Renoir parce qu'il a réalisé La Grande Illusion. Donc ça, c'est le génie de Jean Renoir. Comme on disait tout à l'heure, Thorez au déjeuner, les croix de feu au soir.
Hollywood est un endroit extraordinaire. Hollywood est un endroit extraordinaire dans lequel vivent des quantités de gens également extraordinaires. On y rencontre des gens comme Huxley, comme Stravinsky. On y présente des gens qui ont eu vaguement l'idée de faire du cinématographe il y a 20 ans, qui ont raté, qui vivent un peu en clochard. C'est un endroit exquis, Hollywood, surtout très agréable si on n'y fait pas de cinéma. Mais puis heureusement qu'il y a aussi des producteurs indépendants qui sont exactement comme les producteurs ici, et j'en ai rencontré quelques-uns de merveilleux. C'est là où, par exemple, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis, qui a été mon producteur, en même temps, et c'est David Lowe. C'est un être exquis. Mais enfin, pour en venir à mon arrivée, j'avais un contrat dans un grand studio, et ça m'a exactement rappelé le collège. Je vous ai dit que je pouvais pas rester au collège, n'est-ce pas? Que l'idée d'être enfermé dans une classe quand on avait envie d'être dehors, d'être obligé de jouer dehors quand on avait envie dedans, mais d'être odieuse, eh bien, le grand studio dans lequel j'étais m'a fait exactement la même impression. Heureusement que je suis tombé sur des gens très gentils, j'ai fait un film, qui a bien marché d'ailleurs, c'était un très gros succès commercial, ça s'appelait Swampwater. J'ai même eu la très grande joie d'y découvrir de nouveau. On m'a demandé de prendre des vedettes, on voulait me lancer comme grand metteur en scène à vedette. Je préférais partir avec des inconnus. Et j'ai pris un garçon qui était dans la troupe, comme ça, ce qu'on appelle Stock Boy, et que même la direction du studio ignorait sa présence. Et j'ai pris une fille, dans les mêmes conditions, et le garçon c'était Dana Andrews, la fille c'était Anne Baxter, et après ce film ce sont devenus des vedettes.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Donc le 5 décembre 1940, Jean Renoir et Dido embarquent à Lisbonne sur le paquebot Siboney, avec pour compagnon d'ailleurs Saint-Exupéry, qui apparemment se trouve dans la même cabine qu'eux, c'est ça, Pascal Mérigeau?
Dans la même cabine que Jean, Dido étant du côté des femmes.
Ouais. Alors, vous dites dans votre biographie qu'au fond, les périodes de Jean Renoir se conjuguent avec les périodes intimes de sa vie et les trois femmes de sa vie. Donc, on l'a bien compris déjà pour Catherine Hessling, puis pour Marguerite, dont vous avez parlé, qui était monteuse, qui donc l'entraîne finalement dans le monde de la politique, qui était une militante communiste. Là, il part à New York avec Dido, qui n'est pas encore sa femme d'ailleurs, je crois, et qui va devenir ensuite sa troisième femme. Qui est-elle et en quoi finalement correspond-elle aussi à une période de sa vie et de son cinéma?
Ça va être sa deuxième femme, ce qui n'est pas très, très, très important, mais il n'a pas épousé Marguerite, qui est la seule, c'est ça qui est étrange, la seule qu'il n'ait pas épousée est la seule à avoir porté le nom de Renoir. C'est assez bizarre.
Au générique même de ses films.
Oui, absolument, elle a demandé, et donc, pour le tard. Mais peu importe. Mais Dido est une fille de diplomate. Son père a été consul à Liverpool, etc. Et donc elle parle plusieurs langues. Et c'est elle qui va servir d'interprète à Jean à Los Angeles. Ça c'est absolument certain. C'est elle ce qui va retarder son apprentissage de l'anglais d'ailleurs. Mais ça c'est pas. Elle lui est extrêmement utile à ce moment-là. Ça c'est vrai.
Il parle l'anglais quand même dans les studios à Hollywood.
Très peu, très peu.
Alors comment se fait-il comprendre?
Il se fait mal comprendre. Et puis, des textes...
Je vous demanderai si vous pouvez vous approcher d'un endroit où on capte un petit peu mieux, parce que...
Je suis sur un fixe, donc...
Ah, vous êtes sur un fixe? Ouh là là.
Oui,
donc en effet, on ne peut pas faire grand-chose.
C'est pour ça, mais que je vous dis. Mais j'ai retrouvé un petit fascicule où on donne à tous les metteurs en scène étrangers, tous les mots d'argot cinématographique qui sont assez amusants, mais c'est ce qui va lui manquer à Hollywood. Jean Renoir est quelqu'un qui aime parler, qui aime aller au bistrot, qui aime entre les prises discuter, qui aime les déjeuners qui n'en finissent pas sur les tournages, et tant pis si on prend du retard. Et tout ça à Hollywood, c'est totalement impossible. Donc il n'est plus dans son monde. Et ça va être un de ces drames à Hollywood. Par parenthèse, j'ai entendu dire tout à l'heure que pour Swampwater, les temps tragiques, il avait choisi des acteurs inconnus. C'est absolument faux. Il a demandé à avoir Tyrone Power pour le rôle principal. Et Zanuck lui a répondu, qui était le patron de la Fox, avec lequel Renoir s'est pas entendu du tout, lui a répondu que c'était un film à petit budget et qu'il était hors de question de mettre à sa disposition la plus grosse vedette du studio. Donc tout ça, ce sont des raisonnements d'après-coup, si vous voulez. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je pense que cette dimension-là Ce qui est très beau, c'est quand il dit que Hollywood est un lieu merveilleux pour vivre, mais pas à condition de pas faire de cinéma. C'est un petit peu ce qu'il va expérimenter, lui.
Mais quel est son rapport, rétrospectivement, à la France? Parce qu'il part, on a le sentiment qu'il est énervé, qu'il ne veut plus jamais remettre les pieds dans son pays. Et puis quand il arrive, malgré tout, c'est pas comme s'il adorait la culture américaine, et sa carrière hollywoodienne ne le satisfait pas non plus.
Non, mais il a un désaveu de la France. Il dira des choses extrêmement violentes contre la France jusqu'à la fin de sa vie. Il considère que la France ne lui a pas rendu justice. Et vous savez, si ses archives personnelles sont à UCLA, à l'Université de Los Angeles, c'est aussi pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec la France. Alors, sa carrière américaine... n'a pas été celle qu'il pouvait espérer qu'elle soit. Il a fait le Fleuve, qui est son plus grand succès là-bas, mais qui était une production totalement indépendante, produit par quelqu'un qui était fleuriste et dont ça a été le seul film, et produit entièrement avec de l'argent indien, donc c'est à peine un film américain. Et puis ensuite, ben, comme il n'a pas d'emploi et qu'il doit travailler, c'est pour ça qu'il revient en Europe, mais contraint et forcé, et avec toujours en tête ce rêve de séduire le public américain et ses amis américains. Parce que ses amis, à ce moment-là, sont américains. C'est à eux qu'il veut plaire. Et c'est tout à fait normal. Ce sont des gens comme Chaplin et autres. Et donc, son échec, ça va être celui-là. C'est de ne pas trop réussir, qui va être sanctionné par Elena et les hommes, film auquel il croit beaucoup dans un premier temps, avec Ingrid Bergman, dont il veut relancer la carrière, qui, comme la sienne, est au creux de la vague. Et puis, en fait, ça va pas se passer du tout comme il l'espérait. Et donc, c'est pour ça qu'il revient en France. Mais il ne reviendra jamais vivre en France.
Oui, c'est ça. Il continue de faire des allers-retours sans cesse entre Absolument. Beverly Hills et Paris.
Oui, parce qu'il aime la vie à Beverly Hills. Il aime la vie en Californie. Il est très heureux avec sa femme là-bas, etc. Le climat lui convient parfaitement. Et donc, il n'a pas du tout envie de revenir en France.
Il est très heureux. En même temps, il est surveillé par le FBI, qui le soupçonne de sympathie communiste. Décidément, tout le monde est perdu avec la politique chez Jean Renoir. Et quand même, le FBI lui empêche d'avoir des prêts pour un certain nombre de ses films, pour monter, vous me corrigerez si je me trompe, une structure de production, une maison de production qu'il a mise sur pied.
Oui, je ne suis pas absolument sûr que ce soit le FBI qui l'ait empêché. Je pense que la structure de production était monté par lui, qui n'avait à un moment où lui-même n'avait plus du tout, comment dirais-je, de crédit au sens propre, au sens large à Hollywood, c'est-à-dire qu'on n'y croyait plus. Il a fait une première erreur quand il travaillait à la Fox, qui a son premier film. Il avait un contrat pour un deuxième film. Il a préféré partir. Il a fait de mauvais choix. Il a préféré ne pas faire le deuxième film. Il a fait de mauvais choix de carrière à ce moment-là, et il s'est retrouvé à la fin. Il avait un contrat de deux films. Il n'en a fait qu'un, qui était La Femme sur la plage, parce que le studio a rompu le contrat. Donc Jean Renoir n'était plus désiré à Hollywood. Il est arrivé trop tard à Hollywood aussi. Vous savez, les grands cinéastes, notamment allemands, sont arrivés plus tôt, dans les années 20, dans les années 30. Et Hollywood avait changé quand Jean Renoir arrive. Est-ce qu'on a besoin de Jean Renoir là-bas? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que lui a tout fait pour devenir un bon réalisateur hollywoodien. Et il n'y est pas arrivé parce qu'il était tel qu'il était, parce qu'il n'a pas fait les bons choix. Et puis, il a quand même fait de très beaux films.
Le dernier pays étranger en date, c'est l'Italie, avec le Carrosse d'Or. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux vous parler que d'éblouissement. D'abord, n'est-ce pas, la musique de Vivaldi, ça ressemble tellement à la peinture de mon père. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Ça jaillit de la même source. Il se trouve que les atomes, en se réunissant autrement, ont donné des sons au lieu de donner de la lumière. Mais enfin, pour moi, ça, c'est de la même famille, en tout cas. Et puis alors, il y avait Magnani, qui est aussi de la même famille. Tout ça, n'est-ce pas? Et alors, c'est là où j'ai pu me plonger, me rouler dans la commedia dell'arte avec délice. Oui, ce film, pour moi, c'est la continuation de ma découverte de l'Italie.
Qu'a donné votre expérience à un doux?
Oh, ben, c'est fantastique, n'est-ce pas? C'est divin, n'est-ce pas? L'expérience à un doux m'a appris tant de choses. Alors, en est reconnaissant aux hommes et aux pays qui vous apprennent quelque chose. M'a appris à être patient, par exemple. L'expérience hindoue m'a appris à ne pas croire que je puisse être le seul à avoir raison. Je crois que le contact avec l'Inde m'a appris à considérer mes propres réactions à travers les réactions, la réception des autres hommes. Ça m'a été précieux. En ce moment-ci, d'ailleurs, il faudra bien que j'y retourne un petit peu, parce qu'on a besoin de temps en temps de se retremper dans cette leçon, dans ce bain. Ça fait pas de mal.
Entretien avec Robert Sadoul en 1958. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, Pascal Mérigeau, ce désir de filmer ailleurs, ni plus en France, ni plus aux États-Unis? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une ouverture, au contraire, vers ce cinéaste du monde qui est un peu devenu Jean Renoir?
Je pense que c'est une ouverture vers d'autres mondes, mais il faut savoir aussi que c'est une ouverture obligée, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le choix. S'il voulait continuer de travailler, il fallait qu'il se tourne vers d'autres univers. Il aurait pu revenir en France plus tôt, il ne l'a pas souhaité, parce qu'aussi il craignait d'être accusé de bigamie, son mariage avec, enfin c'est une histoire très compliquée, son mariage avec Catherine n'ayant pas été rompu, etc. Enfin bon, bref. Donc il a attendu beaucoup. Ça lui a été reproché aussi, parce que les autres cinéastes français qui étaient à Hollywood, du René Clair, du Vivier, sont rentrés très très vite. Renoir, non. Il n'est pas rentré, mais il était heureux là-bas aussi. Et puis il voulait, encore une fois, ses amis étaient les Américains. Et c'est à eux qu'il voulait plaire, donc il voulait devenir un grand cinéaste américain. Ce qui n'a pas réussi. Et l'Inde, bah, il est tombé amoureux d'un livre, et il a fait un de ses plus beaux films, certainement en Inde. Ce qui a été une histoire assez amusante, j'ai retrouvé la lettre que lui envoie l'auteur du roman, Ramagardhan, qui a vu le film en Technicolor à Londres avant lui, parce qu'à l'époque, Technicolor était très lourd, et il y avait une projection en Technicolor, Jean l'a monté en noir et blanc, et une projection en Technicolor, elle lui envoie une très très longue lettre, 4 pages, il y a un paragraphe au début où elle lui dit que le film est merveilleux, et ensuite 3 pages et demie où elle lui dit qu'elle déteste absolument le film avec toutes les raisons du monde, et la réponse de Jean Renoir est merveilleuse. Il lui répond, cher Ramagardhan, je suis 100% d'accord avec toutes vos réserves. Malheureusement, je ne peux rien y faire.
Mais oui, c'est tout. Jean Renoir. Alors, il meurt le 12 février 1979 dans sa maison de Beverly Hills. Et Orson Welles signe une nécrologie dans le Los Angeles Times intitulée The Greatest of All Directors, le plus grand de tous les réalisateurs. En quelques secondes, Pascal Mérigeau, est-ce que c'est aussi votre sentiment? Était-il le plus grand de tous les réalisateurs?
Ah, probablement, à certains moments, si vous voulez, il a des films qui sont absolument éblouissants. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est la sacralisation du personnage, c'est ce un peu vers quoi je me suis dressé, à savoir, tous les films de Jean Renoir ne sont pas des chefs-d'œuvre et tout ce que dit Jean Renoir n'est pas parole d'évangile.
En tout cas, voilà, c'est tout. On peut en apprendre davantage en se référant à votre biographie parue chez Flammarion et tout simplement intitulée Jean Renoir. Merci Pascal Mérigeau d'être venu nous parler de lui aujourd'hui. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Olivier Arnay. Demain, nous serons avec Charlotte Garçon, des Cahiers du cinéma, pour un panorama de l'œuvre de Jean Renoir. Et dans un instant sur France Culture, ce sont les sciences que vous retrouvez.